Et là, je vais nous proposer une lecture dans la Bible, dans Luc chapitre 5, versets 15 jusqu'à 26. Je disais Luc chapitre 5, versets 15 à 26. Est-ce que Botrel peut projeter? Non, il ne peut pas. Luc chapitre 5, versets 15, versets 17 à 26. Chapitre 5, versets 17 à 26, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient aussi là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique et cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes, les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Jésus, connaissant leurs pensées, il prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Il n'est même pas resté. Tous étaient dans l'étonnement. Et glorifiait Dieu, rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Je ne sais pas combien de chrétiens qui suivent Jésus sont prêts à voir des choses étranges. On est chrétien, mais on s'est dit, les étranges, on ne veut pas. Les étranges, on veut voir des choses qu'on comprend, des choses qu'on maîtrise. Mais dans le parcours, lorsqu'on suit Jésus, c'est possible de voir des choses étranges. Et nous devons être préparés à ça. Parce que Jésus ne fait pas seulement des choses que nous aimons, ou des choses que nous comprenons, ou des choses que nous pouvons expliquer. Des fois, il fait aussi des choses étranges. Et le thème de ma petite exhortation de ce matin, c'est la foi qui brise les barrières. La foi qui brise les barrières. Et dans ces textes que je viens de lire, la Bible parle d'un miracle, une guérison, quelque chose de particulier, un miracle de la miséricorde de Christ. On nous a parlé de la miséricorde il n'y a pas longtemps. La miséricorde de Christ. Il y a des gens qui apportent leur ami qui est malade. Mais la première chose que Jésus fait, il pardonne le péché de celui qui était malade. Mais avant ce miracle, il y a des choses qui se sont faites dans ce livre, Luc chapitre 5, commence avec l'histoire de Jésus qui commence à prêcher dans la barque de Simon. Jésus est en train de faire des tours dans la ville et il y a des foules qui viennent. Et quand la foule arrive, qu'est-ce que Jésus fait? Il cherche un système de sonorisation. La barque. Pourquoi la barque? Parce qu'avec ça, il peut rentrer dans l'eau et le vent qui quitte de la mer peut porter sa voix plus loin. Donc Jésus pouvait calculer même la sonorisation. Il s'est dit, si je parle de l'autre côté de la mer, ils vont pas m'entendre. Mais si je rentre dans la mer, je vais parler et les gens peuvent entendre de loin. Et il commence à parler, il commence à prêcher, il prend la barque de Simon-Pierre. Et après avoir prêché, il s'est dit, je vais quand même répondre aussi aux besoins de celui qui m'a prêté sa barque. Il dit, Pierre, avance maintenant et jette le filet. Pierre qui dit, mais écoute Jésus, tu ne connais pas ça. J'ai essayé toute la nuit, il n'y a rien. Et Pierre qui dit, ben en fait, ça c'est ma traduction, ma version. Pour que les gens ne pensent pas que je ne t'obéis pas, je vais jeter. Il dit, bon, si ça dépendait de moi, je ne le ferais pas, mais je le fais à ta parole, parce que toi, tu l'as dit. Il a jeté, et c'était un miracle. Ils ont attrapé beaucoup de poissons. Et la Bible dit que lui et toute et sa suite, ils sont devenus disciples de Christ. Ils ont abandonné leur barque et commencé à suivre Christ. Et après ça, Christ, il va guérir un lépreux. Et après l'avoir guéri, il l'envoie pour aller se présenter devant les sacrificateurs pour qu'on témoigne qu'il est réellement guéri. Et ce n'est qu'après ce moment que la Bible dit que Christ a continué à enseigner et continué à parler et continue à guérir les malades. Et cette fois-ci, il se retrouve dans un contexte bizarre. En face, on voit, la Bible nous parle des gens qui étaient dans la foule qui écoutait ses enseignements. La Bible dit, il y avait des pharisiens et des docteurs qui venaient de tous les villages de Galilée. Ils venaient de tous les villages de la Judée. Ils venaient aussi de Jérusalem, des docteurs de la loi et des pharisiens. Je suis un prédicateur. Quand tu invites pour enseigner au pasteur, tu as une peur qui dépasse un peu la peur d'habitude. Parce que tu es en train d'enseigner aux enseignants. À un certain moment, tu te dis, on est en train de me juger. On est en train d'évaluer ma prédication. Et si Christ, il se retrouve en face des docteurs de la loi. Il se retrouve en face des pharisiens. Les pharisiens qui, eux, ils sont réputés dans la société pour leur apparence de piété. Quand ils marchent dans la sainteté. Je ne sais même pas comment ils font. Les saints pharisiens, la piété, l'apparence de la piété, ces gens, ils sont reconnus et respectés pour la manière stricte d'observer la loi de Moïse. Dans la société, ils sont pharisiens, on les respecte. Et d'un autre côté, on a des docteurs de la loi et ils ont passé leur vie à étudier la loi de Moïse, à connaître tous les contours de cette loi de Moïse. Quand les gens voulaient avoir l'explication de la loi, ils savaient vers qui aller, ces docteurs de la loi. Et sont là des gens qui sont en face de Christ, qui est maintenant en train de prêcher. Toi, qu'est-ce que tu vas dire à ces gens-là? On t'invite pour prêcher. Ces gens qui connaissent, et Christ, ils prêchent. Mais en face de ces gens, il y a un jeune homme d'à peine 30 ans qui est en train d'enseigner. Il y a des foules qui sont en train de le suivre. Et il y a un détail important. Et la Bible dit, la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. D'un côté, on a des gens qui ont l'apparence de la piété et la connaissance, je vais dire, intellectuelle de la parole de Dieu. D'autre côté, on a un jeune qui parle calmement aux gens et aux foules, mais en parlant, il y a des choses qui se manifestent. Et la Bible dit, au verset 18 et 19, qui va introduire mon premier point, et les premiers points que j'ai intitulés, la puissance d'une foi persévérante. La puissance d'une foi persévérante. Les foules entendent et reçoivent le message de Christ. Les gens sont guéris. Il y a une grande foule des docteurs de la loi, des pharisiens. La Bible dit qu'il y a quelques personnes qui apportent leur ami qui était paralytique. Il apporte à Christ. Parce qu'il voulait que Christ le guérisse. La puissance d'une foi persévérante. Versets 18 et 19, la Bible dit quoi? Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Ils cherchaient à le faire entrer à la place sous les regards de Christ. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Cette histoire commence avec un acte de foi. Acte de foi, pas de la personne qui est dans le besoin, pas de la personne qui est en difficulté, mais acte de foi de ses amis. La Bible ne nous parle pas de la foi de la personne paralytique. La Bible nous parle de ses amis. qui ont entendu parler de Christ et ils se sont dit, nous avons un ami qui a besoin de ce que Christ offre. Et ici, avant d'aller très loin, je voudrais revenir à une définition de l'évangéliste qui a été donnée par un autre évangéliste. Il dit, l'évangéliste, c'est comme un mendiant qui va vers d'autres mendiants pour dire, je sais où est-ce qu'on peut trouver le pain. L'évangéliste, cette personne, il sait où on peut trouver le pain, on a tous faim, mais qu'est-ce qu'il fait? Il court vers d'autres mendiants, il va y dire, écoutez, je connais où il y a le pain, venez, nous allons manger ensemble. Ici, nous avons des amis qui apprennent, ils entendent parler de Christ et ils se disent, peut-être que nous sommes en forme, mais nous connaissons quelqu'un qui a besoin de ce que Christ est en train d'offrir. Nous avons un ami qui est paralytique, mais nous ne sommes pas heureux de le voir dans cette situation. Et comme nous savons qu'il y a la solution quelque part, nous allons tout faire pour l'amener vers cette solution. Ils ont pris l'initiative, un acte de foi. Ils prennent leur ami et disent, c'est vrai, il a vécu comme ça pendant longtemps, mais avec l'arrivée de Christ, les choses ne doivent pas rester ainsi. Quelque chose peut être fait. Et nous allons faire quelque chose. Ils étaient déterminés à amener leur ami à Jésus parce qu'ils croyaient que Jésus pouvait les guérir. Hier, on l'a entendu dans le témoignage de notre sœur Jessica. Pendant plusieurs années, il a porté son frère vers Jésus. Elle a prié pour son frère. Elle a témoigné parce qu'elle se disait, Christ a quelque chose qui peut le transformer. Alors que tout le monde le regardait et voyait un homme arrogant, orgueilleux. Mais quand elle voyait, elle se disait, Christ a quelque chose qui peut le transformer. Christ peut faire quelque chose. Ses amis viennent avec lui. Pendant à leur arrivée, ils se rendent compte que l'endroit est vraiment bondé. Il y a beaucoup de gens partout. La salle dans laquelle Christ était pleine. Les portes, on ne pouvait même pas ouvrir, on ne pouvait même pas entrer. Ils ne se sont pas dit, bon, on a essayé, rentrons. On a essayé. Oui, ils ne se sont pas dit, comme nous, on les dit évangéliques souvent, c'est peut-être pas la volonté des dieux. On est venu jusqu'ici, c'est peut-être pas la volonté des dieux, rentrons. Si j'aimerais dire quelque chose, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas la volonté des dieux. Mais ce n'est pas à nous de les dire si Dieu ne l'a pas dit. Ce n'est pas à nous de dire, ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Parce que seulement, on a rencontré un obstacle. Ces gens, ils pouvaient se dire, c'est peut-être pas la volonté de Dieu, en rentrant. Mais ils ne se sont pas arrêtés. La Bible dit, ils ont regardé. Ce n'est pas possible de passer par la porte. Sûrement qu'ils ont cherché une autre entrée. Ils ont essayé de trouver peut-être ce qu'il y a à la fenêtre. Il y a un ami qui courait pour aller vérifier les fenêtres qu'il y a à côté. Et puis il revenait, il dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils sont partis. Et ils étaient là. Ils se disaient, non, on va pas abandonner. On va pas laisser comme ça. On va faire quelque chose. Ses amis, au lieu d'abandonner, ils ont fait un truc bizarre. La Bible dit, ils sont montés sur le toit. Et en montant sur le toit, ils ont enlevé une partie du toit. Écoute, on n'enlève pas une partie du toit s'il y a encore des fenêtres qu'on peut utiliser. C'est parce qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de fenêtres. Il n'y a rien d'autre qu'on peut utiliser. Ils montent, ils utilisent la toiture. Parlant du toit, je suis arrivé dans cette salle à 5 heures du matin. Il y avait des bruits dans cette salle. Tout était noir. Quand tu es dans cette salle, quand tout est noir, tu ne sais pas voir ce qu'il y a dehors. À un certain moment, j'avais comme l'impression qu'il y avait des gens qui tiraient sur les fenêtres. Et j'étais seul. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et plus tard, j'ai entendu comme si quelqu'un poussait la porte. Et moi, mon premier réflexe, c'était de dire, la porte est ouverte. J'ai crié, j'ai dit, elle est ouverte, entrez. Je me suis dit, bon, peut-être quelqu'un est en train de... Et après, il n'y avait personne. Et c'est plus tard que je me rendais compte que nos chambres sont juste là. Alors les gens qui passaient, Toutes sortes de bruits qui étaient bizarres. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mon chambre là, ils sont juste là. Donc, toutes ces personnes là, à 5h du matin, quand vous allez aux toilettes, quand vous étiez en train de prier, j'ai entendu des gens qui faisaient monter le feu dans une chambre là. C'est en train de prier. On m'a dit que c'est Morisseau et les autres. Donc, j'entendais des gens partout. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit, ah, ce ne sont pas des sorciers. Alors, ces gens, ils montent sur la toiture. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent une ouverture sur la toiture. Et ils font descendre. Leurs amis se disent, nous allons faire descendre cet ami. Parce que l'objectif, c'est de l'amener devant Jésus. On est venu jusqu'ici, ça ne suffit pas. On va l'amener devant Jésus. Parce qu'ils se disent, s'il est arrivé devant Jésus, Jésus lui peut donner la solution que nous ne pouvons pas donner. Il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Alors ce que nous allons faire, on va tout faire pour l'amener devant Jésus, devant celui qui pouvait tout faire, devant celui qui pouvait faire ce que personne ne pouvait faire. Chers amis, j'aimerais nous dire ce matin, c'est devant Jésus que nous apportons nos problèmes, nos situations. Pas devant un homme, pas devant une femme, pas devant un collègue, mais c'est devant Jésus. Lui, il peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. La Bible avait bien souligné, il y avait des pharisiens qui étaient là. Il y avait des docteurs de la loi. Ils se sont dit, ben écoute, on n'a pas besoin de cela. On a besoin de l'amener devant Jésus. C'est Jésus seul qui peut apporter solution à nos problèmes. C'est Jésus seul qui peut apporter solution à nos problèmes. Et leur persévérance est très importante. Comme je l'ai dit, ils pouvaient rentrer. Et en rentrant, ils n'auront pas reçu ce qu'ils ont reçu. Ils ont rencontré des obstacles. Un obstacle physique, une maison qui est pleine. Un obstacle physique, une toiture bien fermée. On ne peut pas passer. Au lieu de rentrer, ils se disent, on va trouver une solution. Ces obstacles symbolisent les types de barrières que nous pouvons rencontrer dans notre marche avec le Seigneur. De barrières spirituelles, émotionnelles que nous rencontrons dans notre marche de la foi. Je crois, mais je rencontre des barrières, des obstacles. Qu'est-ce que je fais quand je rencontre des obstacles? Est-ce que je rentre, je m'arrête et je dis, c'est peut-être pas la volonté de Dieu? Ou est-ce que je fais comme ses amis? Je cherche la solution. Les amis ne se sont pas dit, rentrons. Ils n'étaient pas découragés par les obstacles. Leur objectif était clair. Jusqu'à ce qu'on l'amène devant Jésus. C'est lui qui va dire si c'est sa volonté ou pas. Mais nous, tant qu'on ne l'a pas amené devant Jésus, on ne rentre pas. On ne s'arrête pas. Et écoutez ce que la Bible dit au verset 20, qui me surprend. Alors qu'ils ont ouvert et commencé à faire descendre leur ami, écoutez ce que la Bible dit. Voyant leur foi. Attends. C'est le lit qui descendait. Mais Jésus voyait la foi. C'est la toiture qui était ouverte. Mais Jésus a vu la foi. Tous les autres, ils voyaient un lit qui descendait. Pour certains, ils se disaient, quel gâchis. Pour le propriétaire de la maison, il dit, des dégâts sur ma maison, sur ma toiture. Mais Jésus voit la foi. Pour les d'autres personnes bien organisées, il s'est dit, c'est quelqu'un qui vient interrompre une rencontre. Imaginez ici, on est là, je suis en train de prêcher, et on entend quelqu'un commencer à ouvrir là-bas la toiture. Est-ce que vous allez me regarder? Est-ce que vous allez suivre ce que je suis en train de dire? L'objectif, c'est de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe là-bas. Les gens vont commencer à regarder, ils se disent, mais quel désordre! Ces gens, ils ne voient pas que Christ est en train d'enseigner. Je suis sûr qu'ils ont envoyé même des gens pour lui dire, allez arrêter ces enfants-là qui dérangent. Allez arrêter ces brigands qui sont en train de faire du bruit. Le problème avec mon imagination, j'essaie de me mettre à la place. Pour moi, ce n'est pas facile. Ces gens, ils ont dû se battre contre certaines personnes. Ils disent, attendez, on a un objectif. Parce qu'on ne va pas juste aller détruire la toiture et tout le monde va les regarder comme ça. Il y a des gens qui étaient autour de Jésus, les pierres et les autres, ils ont dit, on va arrêter cela parce que notre réunion va continuer. Chrétien, des fois, on rate certaines choses que Dieu peut faire parce que nous, on pense que c'est une interruption. Ils veulent nous interrompre dans ce que nous sommes en train de faire. On vient là à 12, à 10h30. Il faut qu'on finisse à 12h30. Il faut qu'on fasse ça et ça. Mais quoi? C'est quoi ça? C'est qui cette personne qui commence à pleurer? C'est qui cette personne? Mais attends, on a dit prier, toi tu pleures. Il est en train de déranger l'ordre de notre culte. Mais le dérangement, ces jours-là, il était physique. On voit un lit qui descend. Alors que le lit descend, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Parfois, la vie nous présente des obstacles qui bloquent notre chemin vers Jésus. La Bible nous parle d'une femme qui pendant plusieurs années était en train de saigner. Elle a essayé par tous les moyens pour trouver la solution, elle n'arrivait pas. Et comme à la coutume, cette femme ne devait pas être en public pour rencontrer des gens parce qu'elle était considérée impure. Et elle vient et commence à trouver, elle cherche à trouver, à rencontrer Jésus. C'est bon, il y a des gens qui l'ont arrêté. Il dit, mais non, toi, n'y va pas, reste là. Mais elle s'est dit, non, non, jusqu'à ce que je les touche. Et la chose qui se passe quand elle touche Jésus, écoutez la réaction de Christ. Quelqu'un m'a touché. Et les disciples lui disent, mais Seigneur, est-ce que tu comprends où tu es? C'est tout le monde qui est en train de te bousculer. Comment tu peux dire quelqu'un m'a touché? On peut tous bousculer Christ, mais il y a une manière de le toucher. On peut tous être là en train de le pousser, mais seuls ceux qui viennent avec un objectif dans la présence de Christ peuvent le toucher. Il dit, quelqu'un m'a touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Vous autres, vous me bousculez parce qu'il y a beaucoup de gens. On est tous en train de chercher un chemin, mais il y a une personne qui est venue calmement. Elle est venue jusqu'à moi avec un objectif. Je veux le toucher parce que j'ai un problème. La question que je vous pose ce matin, quand vous venez même à ces endroits comme celui-ci, est-ce juste pour bousculer les autres, pour être dans cette chaleur spirituelle avec les autres, ou avez-vous un objectif? Et dire, Seigneur, je viens avec ça, jusqu'à ce que tu fasses ceci. Et dit, quelqu'un m'a touché, parce que j'ai senti une puissance. Il y a un autre, c'était un aveugle, Bartimée. La Bible parlant de lui, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et alors qu'il criait, la Bible dit, ceux qui étaient là, ils essayaient de le faire taire. Il dit, tais-toi, tu déranges le maître. Il est en train de faire autre chose. Il dit, pour vous, c'est un dérangement, mais moi, j'ai quelque chose qui me pousse à crier vers celui qui peut faire quelque chose. Maître, fils de David, aie pitié de moi. Les autres l'arrêtent, mais lui, il crie. La Bible dit, lorsqu'on lui disait, tais-toi, lui, il crie encore plus fort. Vous me dites, je dérange, mais moi, j'ai quelque chose qui me pousse à crier. Ça me rappelle l'histoire de Anne devant Élie. Elle vient dans le temple, elle est en train de pleurer. Et le prophète, le sacrificateur Élie, qui vient et dit, mais comment tu peux être ivre dans la maison du Seigneur? Et il lui dit, ce n'est pas que je sois ivre, c'est la douleur de mon cœur qui me pousse à crier ainsi. Il y a certaines... C'est très dur. C'est pour ça que je prie. C'est pour ça que je pleure. Il y a mon pasteur qui disait, il y a des prières qui sont des prières liquides. Tu arrives dans la présence de Dieu, tu n'as rien à dire, tu laisses couler les larmes. Mon pasteur, il dit, il entend même les prières qu'on n'exprime pas par les mots, que par les larmes. Si je pleure, je sais ce que je ressens. Je sais ce que je ressens. Et ces gens, ils sont venus dans la présence de Dieu, l'objectif, nous, que notre personne vienne jusque dans la présence de Dieu, juste en face de Dieu, que notre ami rencontre le Seigneur. C'est lui qui va déterminer le reste. Nous, on veut l'amener dans la présence du Seigneur. Écoutez, que les obstacles dans notre parcours de foi ne nous fassent pas abandonner la poursuite de notre Seigneur. Il y a des obstacles qui viendront. C'est peut-être un pasteur qui sera un obstacle. Élie a été comme un obstacle pour cette femme, Anne, parce qu'il ne comprenait pas. Je peux ne pas tout comprendre, Mais si tu sais ce que tu poursuis devant Dieu, ne m'empêche, enfin, ne me laisse pas t'empêcher de poursuivre ce que Dieu est en train de faire. Parce que je ne suis pas Dieu, je ne vois pas tout. Il dit, moi, c'est devant la présence de Dieu que je vais la mêler. Qu'il s'agisse de doutes, des circonstances de la vie, des peurs, ou même des opinions des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Combien d'entre nous nous abandonnons parce que nous avons peur de ce que les gens vont dire? Écoute, les autres ne vivent pas ce que tu vis. Les autres ne subissent pas ce que tu subis. Toi, tu viens vers celui qui peut faire ce que personne d'autre ne peut faire pour toi. Alors, s'il faut crier vers celui qui peut le faire, que les autres ne t'empêchent pas. Et la question que je nous pose, combien de fois avons-nous abandonné juste parce qu'on a rencontré des difficultés dans notre parcours de foi? Ces hommes nous montrent le genre de foi qui persévère face à l'adversité. Ils sont déterminés à trouver un moyen pour atteindre Jésus jusqu'à ce que je le trouve, jusqu'à ce que je le rencontre. Combien de fois avons-nous abandonné juste parce qu'il y a l'opposition? La persévérance de ses amis nous enseigne que la foi n'est pas passive. La foi cherche activement à surmonter les défis devant elle. Elle cherche à surmonter activement les défis qu'il y a devant elle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la toiture parce qu'ils ont cru. Ils ont commencé à faire descendre le lit parce qu'ils ont cru. Toi, tu dis, tu crois. Qu'est-ce que tu fais? Ils pouvaient se dire, nous croyons, mais nous restons là dehors. Nous croyons, mais nous restons loin. Ils se sont dit, nous croyons, mais nous allons nous lever. Peut-être que ce que nous allons faire va choquer certaines personnes, mais nous, on veut atteindre Christ. On veut atteindre Christ. Et par leur action, Jésus a vu la foi. Par ce que nous ferons, Jésus verra la foi. La foi persévérante. La puissance de la foi persévérante. Le deuxième point, sur verset 20 et verset 21. La Bible dit au verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, « Oh, mais tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens, ils se mirent à raisonner et dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Écoutez, lorsque Jésus voit leur foi, il réagit d'une manière inattendue. Nous croyons et nous venons parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu qui connaît ce qui est meilleur pour nous, il honore toujours notre foi, mais pas toujours comme nous on voulait. Dieu honore toujours notre foi. Il voit, il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Qui sont dans la foule? Dans la foule, il y a des docteurs de la loi, il y a des pharisiens, des gens qui connaissent la loi. Ils entendent ce que Christ dit. Il dit, mais c'est quoi ça? Ce que Christ dit surprend la foule, en particulier ses chefs religieux, qu'il accusait déjà de blasphème, car seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Il s'est dit, vous voyez ces jeunes hommes? Comment ça, il s'est prend pour qui? Tes péchés te sont pardonnés? Toi, depuis quand tu peux faire ça? Tes péchés te sont pardonnés. Et la question que je me pose, pourquoi Jésus commence-t-il par le pardon? Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi il commence par le pardon? On a amené quelqu'un qui a besoin d'être guéri, paralytique, c'était ça leur foi. On ne l'a pas amené pour que Dieu le pardonne. Parce que nous-mêmes, nous avons aussi besoin du pardon. Est-ce que c'était la source de sa paralysie? On ne sait pas. Mais écoutez la suite. Moi, je pense.
C'est parce que Christ voit au-delà de l'état extérieur de l'homme pour toucher son besoin le plus profond. Je l'ai dit, Dieu honore toujours notre foi, mais ne le fait pas toujours comme nous voulons. Parce que lui, il voit ce qui est réellement le besoin à l'intérieur de la personne. Quand nous venons avec notre foi, Christ a honoré la foi et il a agi. Mais il a touché les besoins les plus essentiels dans la vie de l'humain. En honorant cette foi. Il voit le besoin le plus profond, qui est la restauration spirituelle de la personne. Car le péché est la barrière ultime qui nous sépare de Dieu. Jésus savait qu'avant de guérir cet homme physiquement, il devait le guérir spirituellement. Parce qu'écoute, le plus important, ce n'est pas ce que nous recevons de Dieu. Le plus important, c'est ce que nous devenons en Dieu. Le plus important, ce ne sont pas ces choses que Dieu nous donne, mais le plus important, c'est le pardon que nous recevons de lui. Ils peuvent nous dire, Christ, il voit au-delà de ce qui est extérieur. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Une autre chose que j'aime avec Jésus, comme les amis de ces paralytiques, Jésus n'a pas considéré la foule. Il savait que dans la foule, si je dis ce que je vais dire, les gens ils seront choqués. Ils vont même essayer de me lapider peut-être. Mais il s'est dit, cette personne en a besoin, je veux le dire quand même. Tes péchés te sont pardonnés. Il a pris le risque de dire ce qu'il fallait. Il a pris le risque de faire ce qu'il devrait faire. Comme les autres, il n'a pas regardé l'opinion des autres. Parce qu'il pouvait se dire... Ici, on ne va pas le comprendre. Combien de fois nous nous sommes à Christ l'a fait, sachant que les gens dans cette foule n'allaient même pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Ils pouvaient même le lapider. Souvent, nous venons à Jésus en cherchant des choses qui ne sont pas les plus importantes. Souvent, nous venons à Christ en cherchant des choses qui ne sont pas essentielles. Mais Christ qui sait ce qui est très essentiel pour nous. Et c'est ce qu'il nous donne. Il nous donne le plus essentiel, le pardon. Nous ne réalisons pas combien le péché nous détruit. Le péché détruit une personne, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La Bible met en lumière les conséquences du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Car le péché, il mène toujours à la séparation de Dieu. Il conduit à la mort spirituelle et en fin de compte, elle conduit à la destruction éternelle. Le péché, ne jouons pas. Nous avons banalisé le péché. Le péché est devenu banal dans la société, même parmi les chrétiens. On a une certaine facilité avec certains péchés parce qu'on s'est dit Dieu va pardonner. C'est vrai, Dieu va pardonner, mais il y a certains péchés qui ont des conséquences qui restent. Juste parce que la grâce est disponible, ce n'est pas au fait pour que nous soyons libres dans le péché. Nous sommes libres en Christ et pas dans le péché. C'est mon pasteur qui dit toujours, si tu as goûté à la grâce, alors le péché n'a pas le même goût. Parce que tu sens que la grâce t'apporte, c'est très bon. Au point où tu te dis, je ne veux plus aller là-bas. Ce que j'ai trouvé ici, c'est bon. Il a traité le problème du péché. Lui a donné le pardon. C'est la puissance. C'est pas la puissance du pardon de Christ. Troisième point, c'est là que je vais clôturer. La puissance de la transformation. Verset 22 à 26. La Bible dit, Jésus connaissant leurs pensées, il prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. C'est ça le message de Christ. Il est en face des foules, il est en face des docteurs de la loi, il est en face des pharisiens. Il voulait confirmer qui il était. Il dit, je peux simplement guérir. Une particularité avec les pharisiens, ils croyaient au surnaturel. Je peux guérir et ils peuvent croire juste que je suis un envoyé de Dieu. Mais ça ne suffit pas.
Mais il faudra qu'ils comprennent qui je suis. Et il dit ici maintenant, il dit pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner. Il est dit avec un objectif aussi, pour montrer qui il est, pour que ces gens qui sont en face reconnaissent qui il est réellement. Parce qu'au fait, dans tout ce que Dieu fait pour nous, il veut aussi manifester qui il est. Dieu ne fait pas pour nous seulement parce que nous sommes dans le besoin, mais c'est aussi pour que sa gloire se manifeste. Pour que le monde reconnaisse qui il est. Il dit pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Je te l'ordonne, dit au paralytique. Lève-toi. Il dit, j'ai pardonné, vous avez juste entendu. Vous n'avez pas vu la conséquence du pardon. Mais je vais faire quelque chose qui va confirmer ce que je dis. N'importe qui peut venir et dire, tes péchés te sont pardonnés. Comment je sais qu'ils sont pardonnés? Tu as juste dit. Mais pour vous montrer que même ce que je dis a un impact, je vais dire ce qui peut se manifester physiquement. Ce que je dis par rapport à tes péchés, tu ne les vois pas directement et tu peux te dire, rien ne s'est passé. Mais pour vous montrer que même quand je dis ici, tes péchés te sont pardonnés, quelque chose s'est passé, je vais dire ici, pour quelque chose de physique, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour voir que ce que je dis a un impact. De la même manière, quand je l'ai dit ici, il a réellement été pardonné. Alors comprenez que quand je le dis ici, car le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Et qu'est-ce que le gars a fait? Il s'est levé. Il a marché. Et il est parti dans sa maison. Il n'est pas resté danser avec tout le monde. Il a fait ce que Christ lui a dit. Il dit, lève-toi, marche et va dans ta maison. Une autre chose. Il y a certaines guérisons, certains miracles que nous n'avons pas parce que nous ne nous levons pas. Imagine un peu que Christ dit, lève-toi et marche. Toi, tu restes là, tu dis, alléluia, je reçois. Il a dit, lève-toi et marche, je reçois. Tu vas recevoir, mais tu vas rester là. Le problème n'est pas de crier, je reçois. Le problème, c'est de faire ce qu'il a dit. Agis. Quand tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vivras pas l'impact de la parole de Dieu tant que tu ne t'élèves pas. Tu ne vivras pas certaines choses dans le parcours avec Dieu tant que tu ne fais pas le pas qu'il te demande de faire. Le jeune homme, il n'a pas dit, mais Seigneur, ça fait longtemps que je suis ici. J'ai toujours été comme ça. Comment ça, tu peux me manquer du respect? Tu peux être à ce point-là. Tu me dis, lève-toi. Tu n'as même pas... Je m'attendais à ce que quelqu'un vienne toucher mes pieds, qui commence à prier, à faire des choses pour que je comprenne que tu es en train de me guérir. Tu n'as rien fait. Tu me dis, lève-toi. Parce que tu penses que je suis allongé ici parce que je ne vais pas me lever. Mais cette personne n'a pas pensé à tout ça. Il a dit, tu l'as dit, alors je vais m'élever. Il y a des choses que nous ne toucherons pas, que nous n'atteindrons jamais si nous ne nous levons pas. Dieu voudrait que nous puissions nous lever et que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Après avoir répondu aux besoins spirituels de l'homme, Jésus s'adresse à sa condition physique pour démontrer son autorité, à la fois pour pardonner les péchés et pour guérir. Jésus dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Ces miracles émerveillent tout le monde. Ces gens se disent, donc quand il a dit, tes péchés te sont pardonnés, donc le gars a réellement été pardonné. Parce que quand il a dit, lève-toi, quelque chose s'est passé. Si je me redire à quelqu'un, quand Jésus touche nos vies, il ne nous laisse pas dans le même état. Quand Jésus rencontre nos vies et ne nous laisse pas tel qu'il nous a rencontrés, il nous transforme complètement. Comme l'homme paralysé, nous sommes appelés à marcher dans la nouveauté de vie. Une fois guéris et pardonnés, nous devons être des témoins vivants de la grâce de Dieu. Les autres voient la transformation. Et quand ils voient, ils peuvent glorifier le Seigneur. Parce que la Bible dit, tous ont vu, ils étaient émerveillés. Ils ont glorifié le Seigneur. Quand Dieu fait pour toi, C'est pour que tout le monde voit et qu'il glorifie le Seigneur. Le plus important, c'est la foi persévérante qui brise les barrières, le pardon qui est notre besoin le plus profond, la transformation qui est le fruit naturel d'une rencontre avec Jésus. La foi persévérante, le pardon que Christ offre et la transformation qui est un fruit naturel de ce que Jésus apporte dans nos vies. Je ne sais pas, c'est quoi que toi tu apportes devant Dieu. Les amis, ils sont dit, on doit aller pour mettre notre frère, notre ami devant Christ. On n'est pas juste venu écouter par curiosité. On a un objectif. Et j'aimerais nous dire, toutes les fois que tu viens dans la présence de Dieu, viens avec un objectif. Viens parce que tu voudrais qu'il t'efface, qu'il fasse quelque chose pour toi. Comme cette femme qui coulait du sang pendant plusieurs années, il dit, si seulement je pouvais toucher. Voulait toucher avec un objectif. Comme Bartimée qui pouvait crier alors que tout le monde voulait le faire taire. Il disait, moi j'aimerais voir. Vous voyez, vous là-bas, vous n'avez pas le problème que j'ai. Moi je viens parce que je connais mon problème, je connais mon besoin et je prie que Dieu entende. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Dans des moments comme celui-ci, que ce soit un week-end d'église, que ce soit même un culte à l'église, que ce soit une matinée de prière, une soirée de prière, viens toujours, dis-toi, j'aimerais rencontrer Christ autrement. J'aimerais être touché différemment. J'aimerais revenir transformé de cette présence. Et ce matin, j'aimerais te donner cette occasion de lui dire, Seigneur.